Eh bien, chers amis, nous allons lire ensemble, comme nous le faisons, en introduction à chaque étude, quelques passages qui préparent notre exposé. Le premier dans le Cantique des Cantiques, un hymne à la monogamie et au-delà, une juste relation conjugale et au-delà encore à une juste relation avec le Seigneur. Combien d'applications dans ce Cantique des Cantiques. Nous lisons au chapitre 5, au verset 10, l'introduction à la description que fait la Sulamite de son bien-aimé. Cantique des Cantiques 5, 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Alors suit toute une description détaillée qui va du haut vers le bas. Et puis au verset 16, son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, plusieurs passages, à commencer par la première lettre de Paul aux Corinthiens, déjà évoqué précédemment au chapitre 6, les versets 18 à 20, fuyez la débauche. Nous reviendrons sur ce terme. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et comprenez le mot corps dans un sens beaucoup plus étendu que la simple réalité physique dans les Écritures, à part les textes où c'est évident, le corps englobe toute la personnalité, n'est-ce pas? Donc, pécher contre son propre corps, c'est plus que pécher contre la matière, contre la chair, hein, physique. Ça va dans les profondeurs de notre personnalité. Ne savez-vous pas que votre corps, toujours la même réalité, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? On pourrait même traduire le sanctuaire du Saint-Esprit, parce que dans le vocabulaire du Nouveau Testament, il y a deux termes différents en fonction de ce qu'on appelle temple. Soit le temple dans sa totalité, c'est-à-dire le Saint des Saints et le lieu saint, dans ses quatre murs, si vous voulez, et puis les parvis. Alors vous avez un terme dans le texte du Nouveau Testament qui englobe la totalité, le sanctuaire et les parvis. Puis vous avez un autre terme qui ne concerne que le sanctuaire proprement dit, le lieu saint et le Saint des Saints. Et en réalité, c'est ce terme-là qui est utilisé ici. Donc on pourrait traduire votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Il est vraiment l'épicentre de ce qu'était le temple en terre d'Israël avec les différents parvis. Vous savez qu'il y avait toute une succession de parvis qui s'éloignaient progressivement du sanctuaire lui-même. Hein? Donc ne savez-vous pas que votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et un peu plus loin, au chapitre 7, les versets 3 et 4, Paul faisant allusion à ce que les membres de l'Église de Jésus-Christ à Corinthe lui ont écrit, troublés qu'ils sont par certains comportements et par l'enseignement de faux docteurs. Alors il leur répond. Et au verset 3 et 4, il leur dit ceci, c'est intéressant parce que c'est le début de tout l'enseignement sur le mariage, que chaque femme et son mari, fin du verset 2, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Il est intéressant ici de constater que le terme « disposer » ailleurs est le terme traduit par faire autorité, avoir autorité, l'exousia. Donc on pourrait rendre à la rigueur, ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps. Donc dans la question de l'intimité du mariage, nous allons le voir, hein, c'est sa femme. Un troisième texte, un verset flash, mais un verset très important dans le cadre de la lettre aux églises de Galatie, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, dans les versets 19 à 21, l'apôtre Paul évoque une liste non exhaustive, non complète, mais très expressive, représentative des œuvres de la chair, hein, Galates 5, 19, la chair, ce que la maréchale Beauce appelait l'hippopotame moi, alors on comprend tout de suite, les œuvres de la chair sont évidentes. Et je ne donne pas la liste, mais simplement les deux premiers mots, ce sont la débauche, nous y reviendrons, et l'impureté. Puis suit toute une cascade de boue. Et finalement, au verset 22, un contraste saisissant. Mais, le, non pas les, hein, le fruit de l'esprit. Et si c'est un singulier, c'est un singulier. Et on prend beaucoup de liberté avec les Écritures quand on utilise ici un pluriel. C'est le. Tout simplement parce que Dieu n'est pas un épicier auquel on peut dire « Seigneur, donne-moi 10 kilos de patience. » Mais par contre, dans le domaine de la fidélité, hein, n'est-ce pas, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère de Jésus-Christ en miniature, si vous voulez. Rassembler, résumer, tout n'est pas dit ici. Mais l'essentiel du caractère d'une personne régénérée est apporté. Et tous ces éléments du fruit de l'esprit sont interdépendants. Il faut qu'il y ait croissance harmonieuse. Et si ça cale à quelque part dans un des éléments du fruit de l'esprit, tous les autres éléments en souffrent. Tout comme dans une grappe de raisin, n'est-ce pas? Si vous avez un grain qui est pourri, et que vous ne fassiez pas attention, eh bien dans les jours qui suivent, c'est la totalité de la grappe qui va y passer. Vous voyez ? Donc il y a là un singulier qui est volontaire. Dieu est pédagogue quand il utilise le singulier plutôt que le pluriel. Et donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour qui vient en tête, c'est la dominante du fruit de l'esprit. Tous les autres éléments sont injectés dans l'amour. L'amour qui se traduit par la joie, la paix, la patience, la longueur d'âme, littéralement, la bonté, la bienveillance, c'est-à-dire l'aspect pratique de la bonté qui se traduit vers l'extérieur auprès de ceux qui nous entourent. La foi ou la fidélité, c'est le même terme dans le texte grec, donc la foi dans les deux sens, vers l'autre et de l'autre vers soi, la douceur et la maîtrise de soi qui arrive en dernier, parce que c'est la colonne vertébrale, littéralement, la force intérieure. La maîtrise de soi, ce qu'on appelait autrefois la tempérance, mais c'est un terme qui a pris un sens plus restreint, c'est la colonne vertébrale du caractère chrétien. Et vous pouvez en quelque sorte imaginer la force intérieure, la maîtrise de soi, comme une sorte de barre fixe qui traverserait la totalité des différents éléments du fruit de l'esprit. Il n'y a pas d'élément du fruit de l'esprit qui ne soit marqué par la maîtrise de soi, par la force intérieure. Et là encore, il y aurait tant de choses à dire. Et bien sûr, dans le cadre de l'Épître aux Galates, à cause du problème vis-à-vis de la loi, il y avait les anti-lois, et puis il y avait les à cheval sur la loi qui se battaient entre eux, hein, les libertaires, qui profitaient de la liberté et la transformaient en libertinage, et puis les légalistes qui érigeaient la loi en divinité indépendante de Dieu. Ah, ils se battaient entre eux. Hein. Et alors, Paul précise ici, la loi n'est pas contre ces choses. Et manifestement, il vise les libertaires qui, sous prétexte de grâce, avaient transformé la grâce en crasse, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, ce sont des jeux de mots. On se verra tout à l'heure. Ensuite, un Thessalonicien, chapitre 4. Un Thessalonicien, chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Vous voyez que ce mot revient. Hein? C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Alors là, je mets un hic parce que le texte grec dit son vase ou son objet, et le terme vase, nous le verrons, est utilisé pour évoquer la femme dans 1 Pierre 3, ce qui fait que en réalité le texte va certainement dans une autre direction. C'est que chacun de vous sache posséder son vase dans la sainteté et l'honnêteté. Même le terme posséder peut être traduit autrement, ce qui a permis cette traduction, que chacun de vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter ou se livrer à une convoitise passionnée, à un désir coupable, passionné, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que chacun de vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser emporter par les désirs, comme font les païens. Voilà une manière certainement plus fidèle au texte original, et d'ailleurs les versions qui ont retravaillé les textes aussi à la lumière de l'évolution de la langue, etc., en tiennent compte. Et d'ailleurs toute la suite peut aussi aller dans le même sens, quand il est dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. En réalité, le terme cupidité n'est pas dans l'original, on a interprété. Et dans les affaires, on pourrait le rendre par « en cette affaire ». C'est-à-dire toujours dans le domaine de la sexualité, du mariage et du refus de convoiter la femme du prochain. Et là, ça colle tout à fait avec le contexte général. Il est question de sanctification, il est question de sainteté, de pureté, de refus de convoitise. Et dans la question conjugale et dans le regard que l'on peut porter sur la femme de l'autre. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, Et alors on comprend beaucoup mieux le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il y a alors une unité du texte à partir de cette traduction. Vous verrez pourquoi nous lisons ces passages. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés, le terme revient à nouveau, hein, et les adultères. Une version a rendu Dieu jugera les gens immoraux. Et les adultères, c'est une bonne traduction, mais nous reviendrons sur ce terme. Et un dernier texte, nous l'avons déjà lu hier matin, mais nous le reprenons. On ne peut pas se faire de mal en lisant plusieurs fois les mêmes textes, n'est-ce pas, dans les Écritures. 1 Pierre 3, verset 7, simplement, nous n'allons pas relire les 6 premiers versets qui évoquent l'identité féminine dans une situation conflictuelle, difficile, où la femme doit veiller à manifester son identité féminine, ne pas se laisser influencer par la difficulté de la relation avec un mari qui n'obéit point à la parole. Elle doit veiller à son identité. Et puis, il est dit la même chose au verset 7, hein, 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez de même de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, ou mener la vie commune avec sagesse, comme en présence d'un vase, vous voyez le terme est là aussi, hein, c'est le même terme que nous avons vu tout à l'heure, plus faible, fragile, honorez-la, c'est un des thèmes de la première épître de Pierre, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Nous allons donc terminer notre approche de cette deuxième priorité étudiée depuis le début de notre séjour, à savoir, faites-vous mutuellement bon accueil. Toute cette question de mon identité en tant qu'homme et de l'identité de la femme, et ceci à partir de l'accueil, de la qualité d'accueil de la part du Seigneur. Nous l'avons vu, cela commence par là. Pour bien s'accueillir réciproquement dans le couple, il importe de prendre conscience de la manière dont le Christ nous a accueillis au moment où, mystérieusement, mais de manière réelle, vivante, nous avons été unis à lui par une septuple action miraculeuse du Saint-Esprit, c'est-à-dire au moment de notre régénération. Et puis nous avons souligné l'importance de pouvoir aussi, à partir de là, nous accueillir nous-mêmes, nous accepter nous-mêmes, non pas vivre une espèce d'amour-passion de notre propre personne, d'exaltation de soi, de narcissisme, de nombrilisme, où finalement on en vient même à aimer tous ses travers, tout son péché, à même se servir de son passé, de son éducation pour justifier tout et n'importe quoi. Non, simplement m'accepter parce que Dieu m'aime, parce que j'ai une infinie valeur à ses yeux. Parce que je suis une créature merveilleuse. Je suis fier d'avoir un tel créateur. Et je l'exalte pour la beauté de sa création. Chaque naissance d'enfant est généralement l'occasion de réaliser tout à nouveau, même s'il y a parfois des situations bien dramatiques, la beauté de la création de Dieu. S'accueillir, s'accepter soi-même, m'accepter comme homme, accepter ma femme comme femme, dans la mesure où, bien entendu, je suis tant soit peu au clair sur la structure du couple et la différence de vocation entre l'un et l'autre à l'intérieur du couple. Alors vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la vocation de l'homme et de la vocation de la femme, et que nous avons résumé dans ces deux images qui ont alimenté bien des conversations qui sont montées jusqu'à ma chambre. De temps en temps, j'entendais des éclats de rire depuis là-haut, pourtant c'est le troisième. Et le mot armoire à deux battants et commode à tiroir retentissait parfois très fort. Mais je crois que nous avons compris, puis il y a une annonce qui est suffisamment explicite, surtout dans son verso, pour que nous prolongions ce que nous avons dit. En tout cas, l'homme, je le résume par la citation d'un croyant, d'un homme qui est auprès du Seigneur maintenant, mais qui s'est beaucoup penché sur ces questions. L'homme s'appuie sur des idées et la femme sur des personnes. L'homme puise des forces considérables dans l'intérêt qu'il porte aux choses, tandis que la femme se passionne pour les choses dans la mesure où elle sent qu'une personne s'intéresse à elle. Les hommes aiment la géométrie, ce qui est précis et mesurable. Ils jugent la valeur d'un sportif au centième de seconde. Alors on a les championnats du monde d'athlétisme où ça se joue à deux centièmes du record du monde. Hier soir, vous voyez que je suis quand même un petit peu les informations. Car rien n'apporte de preuve plus irrécusable que les chiffres. Les femmes en décideront plutôt à son allure plus ou moins sympathique. Pas uniquement, c'est pas ce qu'il veut dire. Les hommes s'attachent davantage à la quantité, les femmes à la qualité. Quelqu'un dira, l'homme aura du mal à se rendre proche. La femme aura du mal à prendre du recul. Pascal, qui a écrit tant de choses intéressantes, a écrit notamment ceci, « L'homme a l'esprit de géométrie, la femme a l'esprit de finesse. » Intéressant, c'est pas d'aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a écrit, l'homme s'intéresse au chemin qu'il va prendre, la femme aux gens qu'elle va y rencontrer. Toujours la notion de la personne, très forte chez la femme. Alors, j'aimerais, ou peut-être avant, d'encourager, vous donner une petite illustration tirée d'une revue tout à fait profane, mais qui est comme un clin d'œil à tout ce que nous avons partagé depuis hier matin sur ce sujet. Voilà l'anecdote. Nous étions attablés chez mes parents. Robert, mon petit garçon de 5 ans, renâclait devant un plat auquel il n'avait encore jamais goûté. Mamie l'encourager. Imagine que le contenu de ton assiette est un nouvel ami que tu rencontres pour la première fois. Il faut parfois beaucoup de temps pour apprendre à le connaître et à l'apprécier. Approche merveilleusement ses mini. Comme Robert semblait peu convaincu, grand-père vint à la rescousse. Tu n'as qu'à penser que tu as dans la tête un ordinateur prêt à fonctionner et que ta langue est une disquette. la suite de l'histoire manque, j'aurais aimé savoir qui des deux avait finalement obtenu gain de cause auprès de Robert. Mais ceci me conduit à encourager mes sœurs, les femmes, à accepter leur vocation avec joie et à ne pas se laisser impressionner par les slogans à la mode, par ces pressions permanentes qui s'opèrent sur la femme dans l'Église de Jésus-Christ en particulier. C'est Alain Perfit, un auteur remarquable, il fut homme politique, excellent écrivain, historien, académicien. Son livre « Le mal français » est très intéressant pour bien connaître la société française. Et dans ce livre, Alain Perfit de signaler notamment ceci, à force d'exiger l'égalité, la femme risque d'abolir la différence essentielle pour l'enrichissement mutuel des deux sexes. Et si la féminité était un élément dont aucune société ne saurait se passer? Et combien Alain Perfit a raison. Ce qui est une des choses peut-être les plus douloureuses dans notre société totalement déséquilibrée au plan affectif, c'est précisément cette perte de la dimension féminine qui peut tant apporter à une société et que l'homme ne peut pas apporter à lui tout seul. C'est quelque chose de profondément douloureux. J'ai des exemples de l'amour moderne de madame. Appelant chez lui, un homme tombe sur le répondeur téléphonique. Salut, c'est ta femme. Pour savoir ce qu'il y a à dîner, appuie sur 1. Pour t'excuser de quelque chose que tu m'aurais dit, appuie sur 2. Pour me dire je t'aime, appuie sur 3. J'espère que mon épouse n'utilisera jamais le répondeur de cette manière. Y aurait-il parmi nous des femmes rhinocéros, mariées à des hommes hippopotames? Savez-vous comment la femelle du rhinocéros choisit son mâle? Il faut dire qu'elle est myope. Aussi, lorsqu'elle aperçoit son galant, elle commence par reculer. Puis elle le charge à la vitesse de 50 km/h, heurte son flanc, le renverse à terre. Ensuite, elle se met à lui labourer les chairs et à le piétiner, et tout ensanglanté et meurtri, le mâle a bien reçu le message, elle m'aime. Je ne vais pas vous décrire l'hippopotame, hein, qui écrase de sa pesanteur. J'ai trouvé récemment une remarque d'un éditorialiste et reporter qui a écrit un livre « Je recommencerai bien » aux éditions Grasset, Jean Ferniaud, et qui écrit ceci « Je ne fais qu'un reproche aux maximalistes du mouvement féministe. Transformer les femmes en hommes, au lieu d'inspirer aux hommes le désir d'être un peu plus femmes. » Alors là, ce n'est pas à leur état de dépendance, mais à leur complexion physique et mentale de mère, de protectrice de la vie, que les femmes doivent d'avoir été toujours pacifiques et secourables, opposant douceur et patience à la brutalité masculine. J'aurais aimé, au contraire,
que se plaçant à égalité avec les hommes, elles leur apprennent que la supériorité de l'espèce s'exprime par le cœur et l'esprit. Encourager les femmes à vivre leur vocation avec joie. Leur vocation qui peut les conduire en priorité, surtout lorsqu'il y a des enfants élevés, à trouver leur première place au foyer. Vous avez vu tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que systématiquement et obligatoirement, l'épouse doit se cloîtrer. Nous avons lu Proverbe 31, et vous vous souvenez que le rôle de la femme dans Proverbe 31 a de quoi nous faire réfléchir. Elle est un véritable chef d'entreprise. Elle achète, elle vend, elle négocie à cause des relations humaines. Mais son intérieur est bien tenu. Son intérieur est bien tenu et ses enfants sont bien élevés puisque ses garçons se lèvent devant elle. C'est-à-dire que quand on lit Proverbe 31, il faut considérer la totalité du texte et ne pas tirer de ce texte que l'on a envie. Hein. Cela veut dire que, effectivement, il y a des priorités à respecter. Et si nous avions pris vraiment le temps de nous pencher sur l'éducation des enfants, l'insistance aurait été sur l'importance de la présence du papa et de la maman dans toutes les mesures du possible, tout en reconnaissant qu'effectivement il est des situations, pour des raisons de veuvage précoce, ou d'abandon de la femme par son mari, ou d'autres raisons exceptionnelles et pour une durée limitée qui peuvent conduire dans le plan de Dieu à avoir une activité extérieure. Et il est vrai qu'on a eu tellement la tendance à caricaturer et à pousser trop loin certaines affirmations sans rechercher les nuances, que l'on a conduit parfois à certaines réactions allant à l'autre extrême. Donc, priorité évidente, parce qu'il n'y a rien de dévaluant. Il n'y a rien de dévaluant dans ce ministère féminin dans sa famille, dans son foyer. Mon épouse, qui est une femme de caractère, et il faut, avec un mari comme moi, et puis un homme qui voyage beaucoup, il faut être femme de caractère. Mon épouse, quand elle remplit en France les feuilles de remboursement de sécurité sociale, d'assurance maladie pour les frais médicaux et autres, doit, pour certaines d'entre elles, indiquer quelle est sa profession. Et depuis fort longtemps, elle a pris l'habitude d'opposer une vive résistance à certaines tendances qui veulent qu'on mette sans profession. Elle ne met même pas mère au foyer, mais elle met sans profession. C-E-N-T, profession avec un S. Systématiquement, combien de fois l'ai-je entendu grommeler dans les moustaches qu'elle n'a pas sans profession, je vais vous en mettre des sans profession. C-E-N-T. Écoutez cette parole d'André Mauroy, écrivain du passé. Une femme qui gouverne bien sa maison y est à la fois reine et sujette. Elle est pour son mari et pour ses enfants celle qui rend le travail possible. Elle les préserve de soucis, elle les nourrit, les soigne, elle est ministre des finances, avis aux maris qui tiennent la bourse, alors que c'est l'épouse qui tire le plus grand nombre de chèques, il y aurait bien des choses à dire dans ce domaine. Et c'est grâce à elle que la maison ou l'appartement ont quelque charme. Elle est ministre de l'éducation familiale, et c'est grâce à elle que les garçons entrent en polytechnique et que les filles sont cultivées. Une femme doit être aussi fière de réussir à faire de son ménage un petit monde parfait que le plus grand homme d'État d'avoir organisé son pays. C'est beau, hein ? Et tout récemment, j'ai trouvé dans un livre, en tout cas un extrait de livre remarquable de France Quéré, théologienne protestante, mais qui l'a dit des bonnes choses. Pas dans tous les cas, mais ici. Il est absurde, évoquant la vocation maternelle, il est absurde de présenter ce métier comme un sacrifice perpétuel, une coalition de la société pour assujettir la femme à sa fonction reproductrice. Non, dis-je. Pour professer des idées aussi démentes, il faut n'avoir jamais connu d'enfants ou ne pas les aimer. Vous nous corniez, hein, criez, mais cornez, coin à coin, vous nous corniez aux oreilles que lourdes étaient les charges maternelles, morne et vil le ménage. Cuisiner, nettoyer, ranger, frotter. Oh, je ne dirais pas le contraire. Je n'irai pas soutenir que c'est tous les jours plaisant. Mais je dirais que ces travaux sont surtout désagréables par l'opinion qu'en ont les autres et par le mépris qu'ils témoignent à leur égard. Si on ne les dédaignait pas, on s'associerait aux soins domestiques et l'on ne gâterait pas l'ouvrage avec cette insolence quotidienne. Vous insistez ? Ce travail est stupide. Et pourquoi donc ? Comment un travail si infiniment varié peut-il être stupide ? Songe-t-on à la quantité d'initiatives et de gestes qu'une femme chez elle accomplit au cours d'une seule journée ? Laver, coudre, ranger, faire des courses, établir le menu, éplucher, cuire, décorer, accueillir les enfants, les mettre au travail, leur parler, les embrasser, que sais-je encore ? Cette variété afflige, peut-être parce qu'elle suppose un travail ininterrompu, mais elle réjouit aussi. Et beaucoup, je crois, m'entendent. Bref, une femme chez elle fait tous les métiers. Comparons donc avec l'exercice d'une profession salariée. Combien peuvent se prévaloir d'une telle diversité ? Gens de bureau accroupis devant leurs papiers. Gens d'usine qui liment à longueur d'année la même pièce. Et même parmi les hauts emplois, combien échappent à la routine ? La vie des femmes voit, elle aussi, se répéter les mêmes tâches. Mais elles sont si nombreuses que leur monotonie est ainsi partiellement combattu. Beau texte. Beau texte. Il y aurait bien d'autres choses à dire, mais nous devons aller plus loin, toujours sur cette question de l'identité masculine et féminine, et toucher un domaine qui était fortement sous-entendu dans tous les textes introductifs à notre réflexion. Nous allons évoquer maintenant la question de la sexualité. Et je sais que dans le milieu évangélique, c'est un terrain miné, un terrain fragile, dans lequel il faut marcher sur des œufs. Je sais aussi que, hélas, parce que trop souvent, pour toutes sortes de raisons, on a négligé d'aborder la question de la sexualité ouvertement dans l'église locale. Parfois, hélas, par réaction, on est passé à l'autre extrême, manquant de sobriété, de respect, de mesure, de réserve, là où elle s'avère nécessaire. Mais ceci dit, je crois que nous gagnons absolument dans l'Église de Jésus-Christ à parler de la sexualité. Nous y gagnons au niveau de nos enfants, parce que vous savez que si ce n'est pas la famille dans l'Église de Jésus-Christ et l'Église locale qui évoque cette question, nos enfants iront chercher ailleurs ce qui leur est déjà donné d'ailleurs dans l'enseignement primaire et secondaire, d'une manière qui est parfois, hélas, très peu encourageante pour la suite. Alors ça, c'est la première raison. Ne nous plaignons pas si nos enfants vont aller chercher ailleurs ce que nous, dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne voulons pas leur donner sous prétexte que ce sont des domaines délicats et que nous avons nos inhibitions et nos blocages personnels parfois, n'est-ce pas? Et il importe aussi qu'en tant qu'adulte dans l'Église de Jésus-Christ, comme nous allons le voir, nous soyons au clair, vous et moi, quant à notre identité d'homme et de femme dans le domaine de la sexualité. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous faisons une quantité de gaffes. Incroyable. Mais bien aimé, que de blocages dans le couple chrétien qui sont précisément liés au fait qu'on n'a jamais réglé des questions d'ordre sexuel. On s'est converti, on s'est donné à Jésus-Christ, on a abordé toutes sortes d'aspects. On a réglé des problèmes dans le domaine des finances, etc. Mais on a laissé soigneusement de côté le règlement de certaines questions d'ordre sexuel. Et quel est le résultat? Le résultat, c'est que de temps à autre, on s'étonne, et de plus en plus dans l'Église. Parce qu'un jour, vous avez un Etna, un Vésuve, ou une montagne pelée, ou un quelconque volcan qui subitement explose. Et on découvre des drames terribles parfois. Et au moment où je vous dis cela, je pense à certains drames, mais terribles, dans des couples, parfois même dans des couples de serviteurs de Dieu, où tel serviteur n'a jamais réglé des questions essentielles dans le domaine sexuel. Et va, nous allons y revenir, fantasmer, à qui mieux. Va, en cachette, voir des films porno, une fois que toute la famille est au lit. Jusqu'au jour où, par accident, on découvre le problème et on commence à comprendre certaines choses. Et je le dis avec beaucoup de douleur. Et au moment où je vous le dis, Dieu me dit, mais que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, n'est-ce pas? Vous comprenez, je l'espère, je le souhaite, je plaide en ce moment. La nécessité d'aborder sainement cette question. Vous savez, j'y ai pensé cette nuit. Chaque fois que je me réveillais cette nuit, immédiatement mon esprit était branché sur ce que nous allions partager maintenant. Parce que c'est une préoccupation. Et parce que j'ai à cœur de le faire en glorifiant Dieu. Il y a des différences essentielles dans l'approche de la sexualité, dans cet amour entre conjoints s'exprimant par la sexualité. Et peut-être qu'avant de parler de ces différences, j'ajoute quelques mots qui me semblent très importants. Ce que nous allons dire maintenant s'inscrit dans le programme d'Éphésiens chapitre 5, verset 18. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si je suis rempli du Saint-Esprit, je ne vais pas utiliser mon corps n'importe comment. Ce C'est le deuxième texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6. Votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire ce que je veux de mon corps. Et il faut que ce soit clair. Parce que cela a des implications absolument énormes. Pensez à ce gigantesque camping, en plus itinérant, que constituait le peuple d'Israël se déplaçant dans le désert. Ces milliers et ces milliers de tentes, magnifiquement ordonnées, tribu après tribu, dans lesquelles il suffit de prendre quelques textes qui évoquent les tentes en Israël, dans lesquelles on faisait toutes sortes de choses. Des choses normales et des choses beaucoup plus anormales. Achan qui avait caché sous le tapis de sol dans sa tente ce qui était normalement dévoué par interdit, donné à l'Éternel, etc., etc., n'est-ce pas ? Mais il y avait une tente au cœur de cet immense camping. Et au cœur du tabernacle, dans son ensemble, à l'intérieur de cette muraille de fin lin de 2 mètres de haut, vous aviez cette tente. Et dans cette tente, cet endroit qu'on appelle le Saint des Saints. Et l'entrée dans les deux parties de ce sanctuaire était conditionnée par toutes sortes de préoccupations, de précautions. Et vous savez que dans le Saint des Saints, la précaution suprême était prise par le souverain sacrificateur qui, une fois l'an, osait y pénétrer entre nous, après avoir fait l'expiation de son péché, du péché du peuple tout entier, etc., n'est-ce pas ? Dans un vêtement tout à fait particulier, avec des clochettes au bord de son vêtement, de manière à ce qu'on l'entende évoluer dans le Saint des Saints, parce qu'il pouvait être foudroyé par la gloire de Dieu. D'ailleurs, on a même ajouté une corde. On le faisait entrer, on attachait une corde de manière à pouvoir tirer son corps sans avoir à pénétrer dans le sanctuaire. Pourquoi tout ça ? Parce que c'était le lieu où Dieu avait décidé gracieusement de manifester sa présence au milieu des enfants d'Israël. Et vous comprenez le sens de ce que je viens de dire ? Je suis ce sanctuaire du Saint-Esprit. Donc, pas question que je sois une tente tout à fait ordinaire comme ces milliers et milliers de tentes en Israël. Je suis le sanctuaire. Donc, notamment dans le domaine de la sexualité, comme dans quantité d'autres domaines, mais par excellence, ce matin, dans celui-ci, Dieu doit être honoré. Dieu doit être exalté. La bonté de ses perfections doit être manifestée, sa gloire, c'est-à-dire littéralement sa pesanteur, doit se manifester. Dieu doit avoir du quoi dans ma vie. D'ailleurs, si je veux que j'aie du poids dans la vie de mes enfants, il faut que Dieu ait du poids dans ma vie. Le texte qui dit « honore ton père et ta mère », le mot « honorer » veut dire littéralement avoir du poids. Il faut que tes parents aient du poids dans ta vie. Et si nous voulons que nos enfants aient du poids dans notre vie, ou que nous ayons, nous, du poids dans la vie de nos enfants, il importe que Dieu ait vraiment du poids dans ma vie. Nous pouvons prendre un autre exemple. Imaginez que vous me rencontriez un jour, l'après-midi, dans les rues de Lauterbrunnen, en train de gambader comme un gosse, heureux d'avoir eu un bon point, sur un des trottoirs de la rue principale. Et en me regardant de près, parce que vous êtes tellement étonné, vous voyez que je suis en train de jeter
mon porte-monnaie et de le rattraper en criant des youpi. C'est presque les yodli suisses, n'est-ce pas? Vous vous dites, mais on voit que le soleil est revenu au-dessus de la hauteur Brunnen. C'est un de ses effets immédiats. Mais enfin, ça passerait encore. Maintenant, imaginez que je sorte d'une banque de la hauteur Brunnen. Non pas avec mon porte-monnaie et les quelques francs qu'il contient, mais avec un lingot d'or. Et que, arrivé dehors, sur le trottoir, je fasse des youpi en lançant mon lingot d'or. Vous direz, alors là, c'est grave, on va l'enfermer tout de suite. Mon comportement est directement lié à la valeur que je porte avec moi. Et vous savez que plus les valeurs sont importantes, plus on prend aujourd'hui de précautions. Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel. Nous avons le privilège d'avoir quelqu'un qui mystérieusement fait sa demeure en chacun de nous qui sommes ses enfants. C'est plus qu'un lingot d'or. Et c'est ce qui devrait nous faire réfléchir, notamment quant à l'usage que nous faisons de notre corps, à cause de la valeur qu'il contient, et à cause de tous ceux qui scrutent cette valeur, dont les uns sont animés de bonnes intentions, mais dont beaucoup d'autres sont animés de mauvaises intentions. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, nous ne devons jamais oublier, quand nous parlons d'amour dans le domaine de la sexualité, que la toile de fond de cet amour dans la sexualité, c'est l'amour agapé. Cet amour dont nous nous sommes longuement entretenus en évoquant la priorité des priorités. Cet amour qui donne. Cet amour qui se donne. Cet amour qui respecte. Cet amour qui est courtois. Pensez à tout ce que nous avons dit et qui doit rester en toile de fond à notre réflexion. Faut-il dire, et là je n'entrerai pas dans les détails, nous en parlerons sans doute dans les jours qui viennent, non donc à ce qui est appelé généralement impudicité. Porneia, d'où vient le mot pornographie, qui dans le Nouveau Testament est non pas un terme pointu, mais ce qu'on appelle un générique, c'est-à-dire un mot qui englobe tout le programme des déviations possibles de la sexualité, telle que Dieu l'a voulu, et à l'intérieur du mariage. Et je veux ici parler de toutes les pratiques sexuelles illicites, union physique de deux célibataires, relations sexuelles préconjugales, adultère, les perversions sexuelles, y compris, et c'est là que je voulais en venir, y compris celles qui sont pratiquées dans le lit conjugal. Parce qu'hélas, il semble qu'à partir du moment où on est bien marié, où on est tous les deux enfants de Dieu, après tout, on puisse vivre la relation d'amour dans la sexualité un petit peu n'importe comment. Tout simplement parce que là, à nouveau, il y a une pression terrible du monde extérieur. Et puis nous amenons dans le mariage, hélas, parfois, nos mauvaises habitudes de péché du passé. Et je peux vous assurer que il m'est arrivé d'avoir des entretiens personnels un peu partout dans lesquels j'ai découvert. Et je ne lance pas la pierre. Mais on ne peut pas honorer le Seigneur en vivant à l'intérieur du mariage les relations sexuelles n'importe comment. surtout à l'heure où les fantasmes sont encouragés. Cette liberté, cette bride laissée sur le cou aux pensées, au travail de l'imagination. Parce qu'il paraît-il, ça fait du bien. Parce que paraît-il, ça libère. Parce que paraît-il, c'est source d'épanouissement. Ça évacue les blocages. Et puis parce que, après tout, comme ça se passe au-dedans de nous, les autres sont censés ne pas en souffrir puisqu'ils ne voient rien. Faut-il rappeler ici simplement Proverbe 16:30, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, pour méditer des desseins pervers, celui qui se mord ou qui serre les lèvres a déjà consommé le mal. Et il est si facile, là, dans les relations, à l'intérieur d'un mariage, même chrétien, au sens le plus noble de ce terme, de continuer à cultiver discrètement des fantasmes qui, s'ils étaient projetés sur le mur de cette salle, nous donneraient envie de disparaître jusqu'au noyau central de cette terre. Mais bien sûr, personne ne voit rien. Eh bien, je dirais que ce n'est pas tout à fait juste. Parce qu'un conjoint s'en rend compte. Il n'est pas toujours capable de mettre exactement le doigt juste au bon endroit, mais il s'en rend compte. Nos fantasmes se traduisent dans notre comportement, que nous le voulions ou non. Alors, sur cette base-là, quelques mots, on continuera après-demain, si nous partons donc demain. Mais quelques mots pour dire, bon, là aussi, la commode à tiroir et l'armoire à deux battants doivent rester en arrière-plan de notre réflexion quand on évoque l'amour dans sa dimension sexuelle. Nous sommes différents. Et là, par exemple, l'homme, dans ce qui s'appelle la sexualité, l'amour sexuel, l'homme est un tiroir de commode. C'est-à-dire qu'il ouvre plutôt, il ouvre de temps à autre un tiroir de la commode. Il est aussi cloisonné. Et chez l'homme, l'amour dans la sexualité est une impulsion. Une impulsion qui devient très puissante, mais qui est temporaire, faite de désir, d'élan. C'est l'expression momentanée et souvent d'autant plus violente d'un désir et d'un sentiment. Et quand ce désir est satisfait, l'élan s'interrompt. Et aussitôt, il fait place à une autre préoccupation vers laquelle l'homme va se tourner entièrement. Travail, loisirs, sport, sommeil, etc. Voyez la sexualité chez l'homme comme un tiroir. On l'ouvre, on le ferme. Et on passe à autre chose. Exactement comme dans les autres domaines. L'homme n'est pas différent là parce que c'est la sexualité. L'homme est en quelque sorte un volcan de temps à autre en éruption. Alors ici, une chose est importante. Le désir de l'homme, le désir masculin, s'éveille surtout par suite de stimulation visuelle. Chez l'homme, ce qu'il voit compte énormément. Et les publicistes le savent. Ce que l'homme voit lui parle. Et c'est son corps qui comprend le langage. Et cela veut dire que l'homme, pardon de le dire comme ça, nous allons voir que
il y a un corps autour de tout ça, et c'est beau. Mais l'homme est excité, dans le bon sens du terme, par le corps féminin, sans pour autant s'intéresser systématiquement à la personne à qui ce corps appartient. D'ailleurs, c'est intéressant au niveau des jeunes, quand on s'adresse aux jeunes, il y a beaucoup de choses à dire qu'ils peuvent comprendre sur ce plan-là. Et de la revue Santé Magazine, très intéressante à bien des égards. À bien des égards, je lis ceci. C'est un médecin qui commente. Ni l'anatomie, ni la physiologie, ni la pathologie ne répondent aux mêmes critères. Garçons et filles ne sont pas logés à la même enseigne, commente tel gynécologue. Les premiers rapports n'ont pas du tout la même valeur pour les uns et les autres. Les garçons voient une confirmation de leur statut de mâle, ils obtiennent un plaisir presque automatique où la présence et l'identité de l'autre peuvent n'avoir pas d'importance. En revanche, pour les jeunes filles, la rupture de l'hymen, l'étroitesse d'un vagin non formé, l'anxiété font que cette première expérience est bien souvent une déception s'il n'y a pas derrière toute la force d'un amour. Le plaisir parfois ne vient que sur le tard. Un autre médecin gynécologue précise, les maladresses des premières amours peuvent très bien laisser une frigidité ou une impuissance comme séquelles. Et allant dans ce sens, dans un livre remarquable qui s'intitule « Non à la société dépressive », l'auteur Tony Anatrella dit ceci, « Le sexe, ce n'est pas l'amour. Il n'est qu'une des modalités. Et pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il avoir bien réuni bien des conditions psychologiques, dont en premier lieu, celle de communiquer avec autrui. » On va y revenir. Le sexe de la libération sexuelle détruit le sens de la communication. Et si l'autre est recherché, c'est pour servir de soutien narcissique à ses fantasmes primitifs, pour légitimer sa propre expression pulsionnelle, ses propres pulsions, sans que cela engage dans une véritable relation. Il s'agit bien là d'un véritable phénomène de civilisation. Mais peut-on donner son sexe, c'est-à-dire la part la plus intime de soi, comme un échange banal, sans que cet acte ait des effets sur l'individu, sur la société? Si la réponse est positive, il ne faudra pas s'étonner qu'on cultive des échecs, que l'intériorité s'appauvrisse, que les relations deviennent superficielles, que la déloyauté règne entre les individus et que la dérision devienne mode de pensée. Et vous savez, ce que nous disons là a beaucoup d'importance pour la communication dans le couple, dans ce sens qu'une épouse aimante devrait pouvoir accepter de s'entendre dire par son mari qu'il a des tentations dans ce domaine, précisément parce qu'il n'est pas construit sur ce plan en ayant la même identité. Les hommes rencontrent généralement beaucoup plus de tentations dans le domaine sexuel que les femmes, des tentations plus difficiles à supporter. Les blocages se produisent à un autre niveau, nous allons le voir. Et il faut que dans un couple, on puisse communiquer. Nous parlerons de la communication ces jours prochains. Et qu'on puisse partager ces choses avec le conjoint. Parlons de la femme. Là où pour l'homme, les relations sexuelles ont un côté donc physique d'abord plus prononcé, pour la femme, il s'agit d'une profonde expérience affective. Pourquoi ? Parce que la femme, là encore, est une armoire sans cloisonnement intérieur. Et la femme dont le domaine sexuel est sensible, c'est logique, à la personne.
La femme est sensible à la personne, elle est sensible au caractère et à la personnalité de son homme. Elle éprouve un besoin de présence, d'attention, de mots doux, de caresses anodines, de gentillesse. Je dirais que par certains côtés, son amour est davantage romantique. Elle a un besoin sentimental prédominant. Et à cause de cela, elle est beaucoup plus exigeante que l'homme, beaucoup plus sensible. Elle est comme un feu continu après avoir évoqué le volcan. Quelqu'un écrit « La sexualité de l'homme est comme le gaz qu'on allume, celle de la femme comme le fer que l'on chauffe. » On voit la différence. Elle est beaucoup plus sensible à l'environnement, au bruit, aux odeurs, à la propreté, à la fatigue. Oh, je me souviens, j'ai fait mon service militaire dans l'aumônerie militaire en Allemagne fédérale. Et je me souviens de ces jeunes qui rentraient après leurs exploits du dimanche dans la ville de Trèves. Et ces gars qui vous parlaient avec une crudité et un aplomb imperturbable de leur séance d'amour dans l'obscurité d'une cave à charbon. Ça, c'est l'homme. L'homme capable d'avoir une relation sexuelle dans son bleu de travail. Et qui a tant de peine à comprendre que pour sa femme, c'est autre chose. Que l'odeur du tabac, l'odeur de l'alcool, la transpiration, le climat, tout l'enveloppement, le lieu dans lequel cela se passe a beaucoup d'importance. Combien d'hommes ne comprennent pas ça? Pourquoi? Parce qu'ils sont uniquement préoccupés de satisfaire leur propre pulsion sexuelle. Là aussi, la femme est surtout sensible. C'est intéressant, nous avons dit que l'homme était sensible à ce qu'il voyait. Pas la femme. La femme est sensible à ce qu'elle entend. C'est l'oreille chez la femme qui est hyper développée. Et cela veut dire que pour atteindre le cœur de la femme, il faut passer par ses oreilles. Et curieusement, ça, il y a pas mal d'hommes qui l'ont compris, mais compris à leur manière. Pour baratiner les femmes, jusqu'à ce que la femme craque en leur faveur. Ils savent qu'en s'y prenant bien, en mettant des trémolos dans la voix, et en racontant son enfance tellement douloureuse, hein, il arrive un moment, il y a les petites larmes, et puis les dernières défenses s'écroulent. Et disons aussi que elle est nettement plus stimulée par le sens du toucher. Quelqu'un écrit aussi, pour la femme, l'amour, c'est la pièce de théâtre elle-même. Pour le mari, c'est l'entracte. Pourquoi ces différences? Parce que nous avons une vocation différente. Parce que nous ne sommes pas appelés, en tant qu'hommes et femmes, à nous suppléer, mais à nous compléter. Et c'est aussi pour cela, mais nous n'entrons pas dans le détail ici et maintenant, qu'il est des fonctions qui, dans les Écritures, sont des fonctions exclusivement masculines. Pourquoi? Parce que ça correspond aux différences de profil. Je peux comprendre, même à la lumière de ces questions d'identité, pourquoi, dans les Écritures, Dieu ne veut pas de femmes anciennes ou de femmes pasteurs. Alors que Dieu réserve à la femme chrétienne une multitude absolument extraordinaire de ministères, tous plus beaux les uns que les autres. Alors je vais terminer, même si ce fait tard. Il y aura des conséquences
au niveau de la jouissance sexuelle. Chez l'homme, comment essayer de rendre ce que nous pourrions appeler la courbe de l'amour dans la sexualité? Eh bien, chez l'homme, la courbe de l'amour dans la sexualité ressemble à un pic. C'est-à-dire que l'homme monte rapidement vers un sommet, vers un orgasme, et la descente est tout aussi rapide et vertigineuse. C'est-à-dire qu'il y a une courbe impulsive, brève, quelle que soit l'atmosphère qui a précédé ou qui entoure la relation. Un homme peut se chamailler, se disputer, et ensuite dire après, si on avait un moment d'intimité. Et il ne comprend pas pourquoi sa femme a des réticences. Il a ouvert un tiroir, il en a fermé un autre. La femme ne peut pas faire cela. Vous me direz, oui, mais aujourd'hui on voit tant de choses. Je vous l'ai dit au début. Quand vous voyez aujourd'hui des femmes qui s'offrent comme elles le font, dites-vous précisément que le problème c'est que leur identité a volé en éclats. Elles ont violé leur identité. Et elles se sont finalement endurcies par rapport à leur vocation originelle. Ça, c'est le drame du péché qui crée un désordre dans la personne. Chez la femme, la courbe amoureuse est un soleil qui monte lentement à son zénith et qui redescend tout aussi lentement. La pleine jouissance dans l'amour sexuel s'insère dans un contexte d'entente harmonieuse, de longue communion affective, dans un cadre qui s'y prête. Une colère, une contrariété, un désaccord, un manque de respect dans la journée se traduiront le soir par une incapacité à prendre plaisir à des rapports sexuels. Et cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire tout d'abord que une relation intime se prépare tout au long de la journée. Dès le matin. Tous les accros de la journée vont compter dans la qualité de la relation intime. L'époux qui aime sa femme va donc avoir à cœur de l'accompagner. Il faut si possible que ce pic et cette courbe trouvent leur sommet se juxtaposant ou très proches l'un de l'autre. Et ça veut donc dire que c'est l'homme qui doit préparer et accompagner et freiner ses propres besoins, ses propres pulsions, jusqu'à ce qu'ils puissent vivre l'unité de l'amour dans la sexualité ensemble. Et puis quand ce moment sublime a eu lieu, que monsieur surtout ne se retourne pas et ne commence pas à ronfler. Mais bien aimé, dans tant d'entretiens personnels, combien de fois des femmes m'ont dit « Comment voulez-vous que nous puissions vivre cette intimité de la sexualité quand mon mari a fini, il m'ignore, il se retourne et il dort. » Certes, c'est vrai, l'acte sexuel est fatigant. C'est vrai. Mais c'est aussi pourtant dans ces moments qui succèdent à ce sommet que peuvent avoir lieu dans un couple les échanges les plus féconds. Et qu'un couple peut garder, comme le Seigneur le fera dans Sophonie chapitre 3, le silence dans son amour. Tellement l'amour est intense qu'il n'existe plus de mots pour le dire, mais qu'on est heureux d'être encore dans ce face-à-face.
de la beauté de cet acte prévu dans le plan de Dieu. Mes amis, que de souffrance, que de drame, parce que la maîtrise de soi n'est pas là, parce que le souci d'accompagnement n'est pas là, parce qu'on veut faire vite, parce qu'on ne prend pas soin de la sensibilité de l'autre, parce qu'on n'a pas de respect à l'endroit de l'autre. Et on s'étonne qu'au bout d'un certain temps, on en arrive à des éloignements et à des obstacles qui empêchent l'exaucement de la prière. Voilà ce que je tenais à vous dire. J'y ajoute simplement cet extrait d'une conférence faite à Radio Luxembourg, il y a déjà un certain temps, par une croyante qui dit ceci. Il y a quelque temps, je lisais un article d'un sexologue dans Match, je crois, qui m'a comblé de joie. Il disait, je cite de mémoire, c'est l'extrait de sa conférence, « Il y a une chose qui est un mystère pour nous, sexologues, dans la sexologie. De tous les animaux, la femme est la seule femelle dont les organes génitaux sont orientés pour que l'union sexuelle se fasse visage à visage, face à face, et non pas par une relation d'écrasement ou de possession. Même chez les singes supérieurs, ça c'est son affaire s'il les appelle supérieurs, l'orientation des organes sexuels de la femelle singe est différente. Seuls l'homme et la femme sont fabriqués génitalement pour pouvoir faire l'amour visage à visage et les yeux dans les yeux. » Alors, le sexologue ajoute, mais c'est intéressant, nous ne comprenons pas, nous sexologues, ce qui a pu se passer dans l'évolution pour que ce soit comme ça. Il n'a qu'à lire sa Bible, ça ira mieux. Mais combien c'est beau! Combien c'est beau simplement là! Il n'y a pas d'hymen dans le monde femelle-animal. Il n'y a que chez la femme. Dieu a prévu des particularités, à la fois des barrières de défense, où il faut demander d'entrer, et puis en même temps ce face-à-face, ce beau face-à-face, que nous avons vu déjà hier matin dans Genèse 2, une aide qui soit son vis-à-vis. On se regarde les yeux dans les yeux. Alors moi, quand je reçois des visites de femmes qui me disent « Mais mon mari exige de moi une relation sexuelle anale, que dois-je faire ?» Mais vous savez que c'est une chose qui devient de plus en plus courante. Alors que Dieu nous aide, j'espère que vous aurez compris dans quel sens nous avons partagé ces choses. Parce que c'est beau. C'est beau. Et il faut savoir en parler selon Dieu. Et nous aider dans nos vies d'église à changer des comportements. Et moi je souhaite, je le demande à Dieu, je l'ai déjà demandé à Dieu, que même je ne vous connais pas, j'ai d'autant plus de liberté. Si cela est nécessaire, qu'il y ait des pardons qui s'opèrent. Que tel conjoint dise à l'autre, je t'ai pas compris. J'ai parfois piétiné irrespectueusement ta sensibilité. Pardonne-moi mon impatience. Pardonne-moi ce manque de maîtrise de soi. Et puis de l'autre côté, pardonne-moi de ne pas t'avoir compris dans tes tentations, dans tes moments difficiles. Parce que, n'est-ce pas, c'est de part et d'autre qu'il faut qu'il y ait un effort. L'homme doit comprendre sa femme, la femme doit comprendre son mari. Et ils doivent aller l'un vers l'autre. Et vous savez, dans le mariage, dans la vie conjugale harmonieuse, chacun doit faire des concessions à l'autre. Pas dans les domaines majeurs. Il n'existe pas de soumission inconditionnelle. Notre soumission inconditionnelle n'est qu'à Dieu. Cela veut dire que si mon mari ou ma femme exige de moi des choses qui ne sont pas selon Dieu dans la sexualité, je dis non. Je dis non. Pour que Dieu soit honoré. Voilà, nous reprendrons demain, après-demain matin, ceci juste pour donner une petite conclusion sur 1 Pierre 3,7. Hein, j'y tiens, parce qu'il est question là de vase fragile. Alors on conclura, et puis on branchera directement sur la marche dans la lumière à l'intérieur du couple. Et dans le fond, on en a déjà un petit peu parlé au travers de nos deux études. Seigneur, merci, merci de tout cœur. Merci pour ta personne, pour la beauté de ta personne, qui se reflète dans ta création. Et c'est vrai, Seigneur, comme l'a dit Martin Luther King, que même lorsque l'homme se traîne dans la boue, tout rappelle qu'il est fait pour les étoiles. Et dans ce monde tellement avili par le péché, dans ce désordre de sexualité, parfois tellement horrible pourtant, nous te bénissons d'avoir pu durant cette matinée évoquer la sexualité presque comme un lys au milieu d'un tas de fumier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir fait différents, hommes et femmes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour cette habitation permanente en nous. Quelle grâce! Mais aide-nous, Seigneur, à être conséquents et à te glorifier dans nos corps et dans nos esprits qui t'appartiennent. Aide-nous à prolonger ce que nous avons partagé dans les heures à venir, à le serrer dans notre cœur, et donne-nous cette honnêteté, cette intégrité qui nous font aller aussi vers l'autre ou prendre l'engagement intérieur de demander pardon. Merci pour ce que tu vas faire dans ce sens. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.